Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode 146. Pierre Boutier, nuit et brouillard, des flics déportés. Chers amis, bonjour. Quand on relate les heures sombres, avec le temps, et avec le temps va, tout s'en va, avec le temps, il y a les bons et les méchants. Les méchants, les salauds, ceux qui suivaient par lâcheté ou par conviction les ordres de Vichy, comme par exemple les flics qui ont exécuté avec zèle les exigences allemandes, on connaît le triste épisode de la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, et des flics français qui ont fait seuls le sale boulot avec parfois des gestes d'humanité, et peut-être était-ce une forme de résistance. Mais tous les flics n'étaient pas des collabos. Et un romancier qui s'était lancé dans une fiction pour faire un roman familial situe dans cette époque, il s'est retrouvé submergé par sa recherche. Et en fouillant dans les archives, tout d'un coup, il y avait une somme documentaire énorme pour... Ça a bouleversé son récit. Bonjour Pierre Boutier.
Bonjour.
Alors, votre livre est intitulé « Nuit et brouillard au bord de la Garonne ». Alors, on va revenir plus tard sur ce titre et je vous demanderai de me raconter qui vous êtes. Mais d'abord, ces flics résistants, vous êtes le premier à en avoir fait la comptabilité. Enfin, vous les avez comptés. Hein, vous avez cherché dans les archives et vous en avez trouvé 740 policiers français qui ont été déportés. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y en avait d'autres résistants.
Et dont beaucoup ne sont pas revenus.
Et 900 qui ont été tués dans l'exercice de leur fonction ou
Disons en combat dans la résistance.
Alors, pourquoi ce sont des chiffres que l'on ne connaît pas bien?
D'abord, vous avez très très bien résumé dans votre introduction, la vision qu'on a aujourd'hui, encore, depuis 80 ans, du rôle de la police qui se borne de façon uniforme, si j'ose dire, à appliquer avec zèle la politique de Vichy, les rafles, etc., etc. Je ne suis pas le premier à donner ces chiffres, mais presque, puisque depuis quelque temps, il y a des recherches là-dessus, comme si une sorte de tabou était levé. Et je dois vous avouer que moi-même, bien que je connaisse mon grand-père, qui était policier à cette époque-là...
Alors là, il faut dire quand même, donc c'est ça le début de l'histoire, c'est une histoire familiale.
Hein. Voilà.
Vous vouliez raconter l'histoire de votre grand-père, comme beaucoup de gens arrivés à la retraite, qui se disent on va fouiller un petit peu dans le grenier et sortir les dossiers.
Exactement.
Et l'histoire est tellement extraordinaire, je vais la raconter. Mais là, elle est plus qu'extraordinaire.
Moi, je pensais qu'elle serait banale. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver.
Oui.
Et à vrai dire, je m'imaginais aussi, moi, je partageais la même vulgate et je me disais, je vais trouver un grand-père qui a été collaborateur. Parce que je n'imaginais pas un instant qu'il puisse y avoir des flics résistants ou des flics qui, sans pour certains être résistants, avaient fait des pas de côté et sauvé nombre de gens en les prévenant.
Et votre grand-père était policier
pendant la guerre. Mon grand-père était policier au début du XXe siècle et jusqu'à après la guerre. Donc, pour moi, il était déjà suspect dans cette période. Aujourd'hui, il y a un auteur notamment strasbourgeois, qui est un ancien dirigeant de la police, qui a été plusieurs années pendant la guerre froide chef de la sûreté française à Berlin, qui a été dirigeant de grands services de la police nationale.
On peut donner son nom?
Oui, Luc Rudolph.
Oui, hein. Donc Alsacien.
Alsacien, voilà. et qui, lui, il est parti lui aussi pour un petit projet à sa retraite. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas les flics résistants, puisque il y en a très peu, ça va me faire un projet de quelques mois, je vais en trouver peut-être 200 ou 300 sur 60 000 flics à l'époque. Et avec 17 ans de recherche, il en a trouvé plus de 5 000. Il en a trouvé exactement même 9 000, dont 5 000 totalement avérés, avec un CV résistant costaud.
Répertorié, oui. Totalement. Est-ce qu'on disait déjà le mot flic à l'époque ?
Oh bah oui. Bon, et c'est comme ces termes péjoratifs qui sont repris par le corps lui-même comme emblème de fierté. Donc, Luc Rudolph lui-même dit mes poulets, mes flics, etc.
Ah, voilà. Alors, on va évoquer également Henri Porte, Portes. Alors, lui, Porte, c'est oui. Porte. C'est lui que vous avez rencontré, il avait 96 ans.
Oui, 96 ou 97, c'était en 2020. Il était... j'ai commencé des recherches tout à fait banales sur Internet au départ, je n'étais pas encore tombé dans les archives, et je tombe sur un site de la Résistance, où je vois la biographie d'un policier dont le nom m'avait été donné par mon grand-père et qui avait été déporté. Je trouve sa biographie, je vois qu'il avait une rue à son nom, qu'il était honoré à l'hôtel de police, etc. Et je me dis, je vais essayer de contacter l'auteur de la biographie. J'y arrive pas, du moins dans un premier temps, et... J'appelle ce site et on me dit, voilà, ben, y a peut-être un ancien policier que vous pouvez contacter. Je lui donne votre nom, il vous contactera s'il
a envie.
Il était en EHPAD déjà, il venait de rentrer en EHPAD, mais avec toute sa tête, son ordi, etc. Le gars m'appelle et il me dit, non, Jabot, ce nom, c'était le nom de mon grand-père, ça ne me dit rien, mais envoyez-moi toujours une photo, comme j'ai été... longtemps trésorier de l'Association des anciens combattants et résistants de la police, peut-être un...
Ça va me dire quelque chose.
Ça va donner... Peut-être qu'il y aura un survivant. Alors, j'avais quelques doutes. Il devait être un des derniers survivants en 2020. Et j'envoie quand même une photo. Quelques heures après, il me rappelle. Il me dit, incroyable, Pierre, ça fait des années que je cherchais le nom de cet inspecteur. Et non seulement je le connaissais bien, mais j'en ai la conviction... Nous faisions partie du même réseau de résistance. Je n'en ai pas la preuve, bien entendu, puisque nous n'avions pas de bulletin d'adhésion, mais je le voyais à certains signes. Quand on vous demandait un certain service d'une certaine façon, on savait que c'était un acte de résistance.
Donc, Pierre Boutier, vous aviez retrouvé un collègue résistant de votre grand-père.
Voilà, beaucoup plus jeune, hein, oui. Sinon il n'aurait pas été survivant à cette époque-là. Mais qui était rentré à 19 ans dans la police où son père était déjà pour échapper au STO. C'était une façon d'échapper au STO.
Service de travail obligatoire.
Voilà. Et il est devenu très rapidement résistant. Il a fait un certain nombre d'actes de résistance qu'il m'a raconté par la suite.
Alors, dans votre livre, vous racontez un petit peu ce double jeu. Parce que c'est quand même quelque chose de... Alors, je ne veux pas dire schizophrénique, mais d'héroïque. D'un côté, de faire semblant de répondre aux ordres des Allemands, qui vous soupçonnaient, bien sûr, qui embauchaient, parce qu'il n'y avait pas assez la Wehrmacht n'avait pas assez de personnel sur place, et donc ils embauchaient des malfrats français pour contrôler, enfin, comme auxiliaires de police. Donc, c'était... Français contre Français, c'était un truc très trouble.
Absolument, mais c'était... On n'en a pas la vision historique précise, souvent, ni la mémoire, mais après l'armistice, la guerre a continué. Mais c'était une guerre entre Français, effectivement. Et dans les mêmes commissariats cohabitaient ceux qui, comme vous le disiez tout à l'heure, par zèle... ou par conviction, ou par...
Lâcheté,
et aussi parfois, dans certains cas, souci de s'enrichir.
Ah oui, parce que
j'en connais par exemple un, qui est très célèbre, qui s'appelait, c'est, le nom est déjà tout un programme, Pierre-Napoléon Poinsot, qui avait choisi dès le début de collaborer avec les Allemands.
Mais en échange de...
Et très rapidement, au bout de quelques mois, quand on a été sûr de lui, il a eu double salaire, c'est-à-dire il avait son salaire de commissaire et un salaire OSD, c'est-à-dire au service de, qu'on appelle généralement la Gestapo, mais qui n'était oui. pas tout à fait la Gestapo. Quoi.
Mmh. Mais, alors, il y a également des résistants policiers qui... Après la guerre, on n'a pas su qu'ils étaient résistants. Mmh. Et donc, ils sont passés, lors de l'épuration, en procès, et on les a accusés d'être collabos. Donc, il y a un nom, alors, Léo Coudin. Racontez-moi son histoire.
Alors, avant de passer à l'épuration, j'aimerais bien d'abord dire un mot de ce double jeu. Le double jeu, justement, de Léo Coudin, par exemple, c'était un jeune policier qui avait 20 ans en 1940, 25 donc en 45, et qui, à partir de 43, 42-43, a commencé à renseigner la résistance, a adhéré à un réseau qui s'appelait le réseau Samson, dirigé depuis la France libre à Alger à l'époque, et qui a donné énormément de renseignements et qui a constitué un petit groupe de policiers résistants. Et... avec ces policiers résistants, ils pêchaient d'abord des informations sur la situation des troupes allemandes, qu'il envoyait donc à Alger et Londres de cette façon-là. Et très rapidement, son groupe en fait était impatient d'agir. Et donc il s'est procuré, quand il a pu, des armes, il les a initiés au maniement des armes, en contactant, en plus de ce réseau Samson, qui était un réseau national, la résistance régionale, et donc les maquis. Et il a travaillé avec les maquis.
Et sans se faire prendre par les Allemands, qui devaient quand même avoir des soupçons, non, c'était...
Pas forcément, parce que justement, le double jeu consistait pas à se vanter partout qu'on allait virer les Allemands et que c'était des ennemis, etc. Mmh. Il fallait survivre. Hein. Et donc... beaucoup de résistants, et j'ai vu ça dans les archives aussi, disent je me confiais au petit groupe de mes amis. Par exemple, je pense à un commissaire qui dit je me confiais à ma secrétaire, à mon chauffeur, à deux ou trois autres personnes qui citent, parce que j'avais une entière confiance en eux. Mais devant les autres, où il y avait, je cite, des trouillards, des poltrons, des gens de l'autre côté, eh ben, je n'hésitais pas de temps en temps à afficher des convictions vichistes.
Oui.
Bien sûr, de façon à ne pas...
Être crédible.
Voilà, et à continuer à pouvoir jouer ce double jeu. Et par exemple, j'ai trouvé dans les archives un truc extraordinaire, que j'ai trouvé dans le dossier de plusieurs policiers résistants qui ont été par la suite, pour certains, déportés. Et je pense en particulier à un d'entre eux dont je vous parlerai peut-être si on a le temps.
Déporté parce qu'il est surpris par les Allemands.
Déporté parce que soupçonné de résistance ou convaincu de résistance. Mmh. Il y en a qui n'ont jamais eu, il n'y a jamais eu de preuves, ni même parfois d'aveux, mais ils ont été déportés parce qu'ils avaient une certitude sur eux. Mmh. Hein. Et donc, ce que j'ai trouvé dans ces dossiers, dans le dossier de fonctionnaire qu'on a encore aujourd'hui, dossier de fonctionnaire... typique, hein. Il y a une page notation à la fin, et dans cette page notation, depuis la notation de décembre 1940, il est écrit sur tous ces dossiers fidèle à la politique du maréchal.
D'accord.
Pour des gens qui, quelques mois après, ont été déportés. Parce que si on n'avait pas cette espèce de tampon obligatoire, fidèle, approuve la politique du maréchal. S'il n'avait pas ce tampon obligatoire,
ouais,
c'était
un soupçon.
Ben, c'était pas un soupçon, on était viré de la police.
Ah oui.
On était viré et, dans le pire des cas, évidemment, déporté.
Alors, Pierre Boutier, venons-en justement à ce travail d'archives. Comment vous avez fait pour fouiller tout cela et puis de dérouler comme ça une énorme pelote? Bon, d'abord, vous êtes prof, hein. Et vous vous êtes dit, c'est juste pour le plaisir d'écrire, je vais raconter l'histoire de mon grand-père. Vous êtes un ancien prof de lettres.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà.
Voilà. Et alors, les archives, effectivement, j'y suis tombé totalement par hasard. C'est-à-dire que ce policier qui avait connu mon grand-père, il s'est laissé aller à des confidences dès qu'on a été un peu en confiance. Et il m'a raconté un secret qui l'avait taraudé toute sa vie. Ce secret, c'était que son chef dans la résistance, qui était justement ce fameux Léo Coudin dont je viens vous parler, ce jeune policier qui avait renseigné la résistance et travaillé avec les maquis, il avait même fait des sabotages avec les maquis, à la surprise générale de toute la résistance de l'époque, en 1945, a été arrêté, c'est-à-dire après la libération. Plusieurs mois après, il a été arrêté par la police française, inculpé d'intelligence avec l'ennemi, et après une instruction dont on reparlera peut-être, qui était, pour le dire en deux mots, qui était, disons, un peu orientée, il a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir appartenu à la Gestapo. Et en fait, il y avait réellement appartenu, ce qui montre que son double jeu avait été efficace, avait trompé l'ennemi. Il y a été recruté à la demande de son organisation de résistance et avec le blanc-seing de son autorisation de résistance. On lui a dit simplement « Faites attention, c'est dangereux, c'est à vos risques et périls ». Il y restait donc quelques mois jusqu'à la libération et ce qui lui a permis de renseigner les maquis, de prévenir les gens d'arrestation, de prévenir justement, j'en reparlerai peut-être après, un jeune mécanicien juif d'une rafle terrible qui a eu lieu début 1944. Et il a été donc, malgré 11 témoignages de résistants qui étaient circonstanciés, qui étaient précis, qui étaient concordants, il a été condamné donc pour trahison, ce qui veut dire que c'était un dossier très orienté. Mmh. En fait, ce sont des policiers qui, j'ai découvert ça après, qui avaient intérêt, disons, à le faire disparaître.
Oui. Alors, il y avait aussi... ce personnage a été réhabilité après, mais c'est grâce à vous, ça. Parce que vous avez cherché dans les...
Alors, j'ai eu la joie de le faire réhabiliter symboliquement, parce qu'il a cherché toute sa vie à être réhabilité, mais il n'a jamais réussi. Il ne l'est toujours pas. Réellement, il faudrait qu'il y ait des faits nouveaux qui soient...
Mais vous, vous êtes persuadé que c'était un double jeu, que ce n'était pas un collabo.
Ah ben, je l'ai prouvé.
Vous l'avez prouvé.
Je l'ai prouvé dans mon... Et c'était tellement prouvé que ça a été reconnu par la Fondation de la Résistance.
Ah oui.
Qui a créé, depuis décembre dernier, une fiche de résistants à son nom sur le musée de la Résistance
en ligne.
Voilà,
on rappelle son nom, donc...
Léo Coudin.
Léo Coudin.
N'importe qui peut la trouver. Voilà.
D'accord. Alors, ce côté justicier ou Zorro que vous avez dans la littérature, donc j'ai dit vous étiez prof, vos élèves devaient vous adorer parce que vous êtes un bon tchatcheur, hein, comme on dit. Vous êtes de l'époque des Lagarde et Michard, qu'on adore également. Et puis après, un jour, vous avez changé de métier, vous êtes parti au PTT. Comme on appelait, voilà. Est-ce que c'est parce que vous aviez des timbres neufs, comme ceux qui travaillent, des timbres gratuits, comme ceux qui travaillent à la SNCF, ils avaient des billets gratuits. J'ai un copain comme ça, il est rentré à la SNCF pour 6 mois pour avoir les billets gratuits, il y est resté 30 ans.
Non, il n'y a aucun avantage, ou il n'y avait aucun avantage, et je pense qu'il y en a encore moins aujourd'hui à la poste de ce point de vue-là. Non, c'était c'est peut-être parce que j'étais... ou que je me croyais affranchi, peut-être.
Oui, les affranchis.
Ouais. C'est, donc, de prof de lettres, je ne sais pas.
C'est Scorsese, hein, ça, les affranchis, non ?
C'est ça, absolument.
Oui. Donc, mais ce n'était pas pour faire du cinéma que vous
non.
êtes... Pourquoi vous avez arrêté d'être prof ? Si je peux poser la question, vous étiez amoureux d'une postière ? Non.
Non, je pense que ça n'aurait pas suffi. Je pense que ça ne suffit pas dans...
Non.
Pourquoi j'ai arrêté d'être prof ? J'avais envie de voir autre chose. Et le métier, aujourd'hui, est très, très difficile. Là où j'étais, il était déjà relativement. Mais je l'ai puisque j'étais en lycée, ce qu'on appelait à l'époque les lycées techniques, lycée professionnel oui. aujourd'hui et collège d'enseignement technique. Mais j'avais effectivement des très bons rapports avec mes élèves, ça se passait bien, mais c'était un petit peu dur et puis j'ai voulu voir autre chose. J'ai voulu voir autre chose et j'ai voulu exercer d'autres métiers.
C'est, voilà. Alors, je voudrais en revenir quand même. Alors, vous avez fait toute votre carrière à la Poste. Vous auriez pu devenir ministre des Postes, mais bon, c'est... Donc, vous arrivez à cet âge vénérable et en même temps une récompense justifiée et légitime de la retraite. Vous vous lancez dans la littérature parce que vous avez toujours aimé lire et écrire. Et puis, vous découvrez cette histoire qui vous, comme je l'ai dit au début, qui vous submerge, hein, qui vous a envahi. Alors, vous pensiez tout imaginer, et maintenant votre bouquin, hein, donc je rappelle le titre, « Nuit et brouillard sur les bords de la Garonne », tout est vrai.
Ah ben, il y a à peu près... je pensais que j'allais écrire avant de tomber dans les archives... je pensais que j'allais écrire, inventer à peu près 90%, que ce serait un roman, puisque j'avais pratiquement pas de source. Et puis, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, j'ai inventé quelques dialogues, mais qui sont totalement conformes à ce que j'ai pu trouver dans ma documentation, dans les archives ou dans ma bibliographie.
Alors, il y a encore un point dans votre bouquin que je trouve assez... C'est qu'il y a des flics qui faisaient ça juste pour le pognon, et surtout à l'épuration. C'est-à-dire que, en Alsace, en ce moment, il y a pas mal de gens qui écrivent des livres sur l'épuration. Il y en a beaucoup qui vont sortir, ou même certains qui sont sortis. Jean-Laurent Vonneau, par exemple, Frédéric Naud-Dufour.
Oui, Vonneau, je l'ai lu, et c'est une réédition qu'il a
fait. Il a repris un petit peu ce qu'il avait fait. Il n'est pas historien, il est juriste, hein, mais c'est des travaux qui sont très bien. Mais alors vous mettez vous soulignez le fait que c'était pour le pognon qu'il faisait ça.
Certains d'entre eux, oui. Par exemple...
Avec du chantage, ils ont envoyé des gens en prison pour pouvoir les spolier.
Vous n'ignorez pas que, si on revient un instant sur la période en elle-même de l'occupation ou de l'annexion pour l'Alsace, le génocide des Juifs par le régime nazi, s'est accompagné de spoliation massive. Et des policiers ont profité de ça aussi, en jouant sur leur rôle, sur leur fonction, pour dire, voilà, écoutez, bon, vous êtes dans une difficulté, les gens n'étaient plus rien juridiquement, étaient pourchassés, voilà, moi je vais vous protéger, je vais vous aider, et c'est tout ça uniquement... pour rafler leurs économies. Et ça s'est passé donc en utilisant le chantage, la peur, etc., etc., et parfois, bien sûr, la violence, puisque ça faisait partie du quotidien. Et certains d'entre eux se sont retrouvés, par un miracle inimaginable, mais qui a existé parfois, se sont retrouvés miraculeusement de grands résistants en 1944, c'est-à-dire juste à la fin, et quelques-uns d'entre eux ont été nommés dans un service qui était chargé de l'épuration.
Oui.
Donc ils ont recyclé tout simplement les méthodes qu'ils avaient utilisées contre les persécutés pendant la guerre, ils les ont recyclées pour faire de l'argent sur le dos de ceux qui étaient accusés de collaboration, qui des fois étaient des vrais coupables, hein, qui avaient amassé des fortunes colossales, et du coup, ils étaient d'autant plus intéressants comme clients. Et le principe, si vous voulez, pour eux, c'était pas le critère, c'était pas est-ce que cette personne a collaboré ou pas, le critère, c'était est-ce qu'il a du fric ou pas, de l'argent. Et à partir du moment où il en avait, Là, il pouvait être libéré.
Oui, ces retournements, ces vestes qui changent un petit peu. Bon, à Strasbourg, on a un exemple, hein, un ancien maire qui avait des complaisances pour Vichy et qui s'est retrouvé ensuite. Bon, il y a un bouquin qui est sorti, là, de Claude Dublin, des dernières nouvelles, qui est formidable, ce bouquin. Qui, alors, justement, ça, c'est un... en fait, ça pourrait faire une autre émission de savoir qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir et qu'est-ce qui est gris. Hein, Primo Levi en parle beaucoup, c'est de cette zone grise.
Je pense qu'il y a plus que du blanc et du noir, il y a beaucoup d'infinies nuances de gris.
Voilà.
Il y a du gris foncé et... parce que... Voilà.
Voilà. Bon, c'était l'épisode numéro 146 de « Vous l'avez bien connu », Pierre Boutier... Nuit et brouillard, des flics déportés. Alors pourquoi est-ce que c'est un tabou ou un déni sur la résistance de la police française? Parce qu'on aime bien les choses qui sont justement ou noires ou blanches?
Ben, ça pourrait faire l'objet pratiquement... Là, je suis un peu embarrassé pour répondre. C'est pas que j'ai rien à dire, hein,
oui.
Mais j'ai beaucoup d'hypothèses que je donne d'ailleurs dans mon livre. Hein. Mm-hmm. Il y a deux grands récits, il y a des grands récits qui se sont imposés après la libération, et notamment c'était pratique de tout mettre sur le dos des policiers,
des méchants.
Voilà, et c'était pratique, mais en réalité, si vous demandez individuellement à des tas de gens dont la famille a été victime de ces persécutions, soit des juifs, soit des résistants, si vous leur demandez individuellement, ils vous diront « Ah oui, mais j'ai été prévenu. J'ai été prévenu par un policier. »
Ah oui.
Et des fois, il y en a qui vous disent « C'est quel dommage que mes parents ne l'aient pas écouté. »
Oui. Vous l'avez bien connu, émission tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi sur Radio Judaïca Strasbourg. La semaine prochaine, nous irons à l'encontre des idées reçues sur ces sacripants d'agents immobiliers à Strasbourg et nous verrons qu'être consultant indépendant en immobilier peut avoir des lettres de noblesse. Vous l'avez bien connu à la technique Thomas Marinelli et mon nom est Ambroise Perrin.